Bruno, homme d'affaires originaire du Nord, ruiné par les politiques, amateur d'opéra. Anne Charlotte, avocate, noble, trop belle, trop riche. Chloé, ouvrière, vulgaire, fonceuse, pas farouche.
Là, on va à Vieux-Berquin, donc la maison où j'ai grandi. J'ai vécu donc jusqu'à mes 5 ans et demi avec mon père, ma mère et ma sœur. Donc c'est une grande maison à la campagne, une ancienne ferme. On va passer devant, mais je vais pas me garer trop près parce que s'il y a les propriétaires, ouais, ils ont déjà bien tout ratissé, dis donc.
Mon père et sa mafia, un documentaire de Lise Verbeek.
Je préfère pas y rentrer parce que déjà c'est plus à moi donc ça aurait été un peu illégal d'y rentrer. Et je voulais pas rentrer en contact avec le propriétaire pour ça parce que déjà ils sont pas du tout au courant de toute l'histoire. Donc voilà, on n'a pas tenu à ce qu'ils soient au courant et je tiens pas à ce qu'ils le soient maintenant. Le choc qu'on a eu, ma sœur et moi, quand on est arrivé, donc après la mort de notre père, en fait, quelques temps après, donc on s'est arrêté pour faire un peu le tour. Et là, en fait, on est arrivé, on s'est rendu compte qu'elle avait été saccagée, qu'il y avait des vitres pétées de partout, des miroirs cassés, des rideaux de douche lacérés, un couteau planté dans une porte, un signe croix gammée gravé dans notre porte de chambre. Ça nous a vraiment fait un choc, ma sœur et moi, parce que déjà, on ne s'attendait pas à ça, on ne savait pas ce qui s'est passé. On se demandait même s'il y avait, qui sait, un lien avec la mort de notre père, si c'était récent, s'il avait vu ça, qu'il avait été... Enfin, on s'est un peu fait tout et n'importe quoi comme scénario, ou alors si c'était, pourquoi pas, des gens qui avaient fait volontairement pour lui nuire, parce que forcément, à force de croire que les gens lui en voulaient, lui, il a fini aussi par embêter tout un peu les gens. C'était plein d'interrogations, surtout un gros choc, parce que nous, on venait un peu retrouver... Des souvenirs justement, les souvenirs heureux qu'on pouvait retrouver là-bas avec lui, et ça a été double choc du coup.
Alors mes filles avaient 8 ans et 6 ans lorsque l'on a décidé donc de quitter la maison, quand on a découvert la maladie de Hugo et surtout le fait que ça n'allait pas aller en s'arrangeant. Et que pour le climat familial, c'était vraiment devenu invivable. Je ne suis pas rentrée dans les détails lorsque je suis partie. J'ai simplement essayé de leur faire comprendre que pour elles, comme pour moi, il était préférable de quitter leur papa, qu'il n'était pas très bien, qu'il avait une maladie. Je ne suis pas rentrée dans les détails, je n'ai pas voulu, parce que je pense que c'était pour elles assez compliqué de le comprendre.
Dès le début, ma mère nous a dit les choses clairement, nous a expliqué, et nous a dit tout de suite le mot, qu'il était paranoïaque. Pour nous, c'était pas abstrait, du coup, il y avait vraiment une maladie, on pouvait expliquer donc tous ces comportements un peu bizarres et qu'on comprenait pas forcément, et qui pouvaient être décevants de la part d'un père envers ses enfants. Donc, comme ça, c'était un petit peu moins difficile à recevoir. Voilà, donc là, par exemple, lui, il était paranoïaque... type persécutif, et il croyait toujours que les gens lui voulaient du mal et que chaque signe réel, en fait. Ça qui est dur avec les paranoïaques, c'est que quand on les connaît pas très bien, on peut tout à fait les croire parce qu'ils partent de faits qui existent. C'est pas des hallucinations comme les schizophrènes ou voilà. Donc oui, ils vont parler d'un fait réel qu'on connaît, donc on le croit, et puis lui, il va changer l'interprétation. Quand on ne connaît pas toute l'histoire, et on peut le croire et on peut dire bah oui, mon Dieu, disons que il vit ses trucs, et puis le pauvre, on lui en veut quoi, on lui rend pas la vie facile. C'est comme ça qu'il a quand même berné pas mal de monde au début, et c'était pas toujours évident. En plus, il était très intelligent, donc il parlait bien, il connaissait très bien la loi, parce que lui, voilà, il était de type procédurier en fait, donc il a fait des tonnes de procès un peu à tous les pauvres gens qui ont eu le malheur de croiser sa route, mais c'est un peu ça. Il a rééchappé... Moi, je me souviens d'une après-midi où je l'avais retrouvé sur l'île, dans un café. Ça nous arrivait de temps en temps, parce que moi, quand j'étais étudiante, donc j'habitais sur l'île, j'avais un petit appart, et puis des fois, il demandait pour passer, et puis des fois, il me racontait tout ce par quoi il était passé, mais qu'il n'était pas vraiment passé, mais qu'il imaginait être passé. qu'on avait plusieurs fois voulu l'empoisonner, le tuer. Donc, en fait, il avait fait une crise d'appendicite, il avait été opéré. Pour lui, ce n'était pas une crise d'appendicite, c'était je ne sais plus qui avait voulu l'empoisonner parce qu'il savait trop de choses dans son travail. Donc voilà, après, il m'a dit qu'il avait échappé à une poursuite en voiture, qu'on avait voulu le tuer en voiture, mais que... Heureusement, je crois qu'il y a la police qui est arrivée et puis qui du coup a fait fuir la voiture et il s'en est échappé comme ça. Ça m'a pas étonnée, moi je savais. Enfin voilà, c'est pas nouveau toutes ces histoires. Je savais que c'est ce qu'il pensait, mais en fait là c'était un peu gros parce que il m'en a beaucoup parlé en fait. Il m'a dit un peu depuis plein d'années ce qui lui était arrivé et là ma réaction, je la trouve bête maintenant, mais ça a été de prendre mon petit mon MP3 et de faire parce que je pouvais enregistrer dessus. Je sais pas, j'avais peut-être besoin de l'écouter, de l'enregistrer pour que les gens peut-être croient, parce que, enfin je sais pas, peut-être, en tout cas j'ai voulu l'enregistrer parce que je trouvais ça tellement incroyable. Et bon d'ailleurs on n'entendait rien dessus, on n'entendait que les bruits de café et de verre et puis on n'entendait rien d'autre mais...
Semaine 1. Chloé et Sylvie sont toutes deux attirées par Bruno qui lui s'inquiète de la cour que Kiki fait à Anne-Charlotte. La situation est pleine de quiproquos. Seuls Bruno et Chloé savent qui est réellement Anne-Charlotte. Le lendemain, Bruno annonce qu'il doit retourner dans le Nord pour terminer ses affaires et qu'il reviendra.
J'ai jamais cru vraiment en fait ce qu'il m'a dit. Et puis c'est tellement gros aussi ce qu'il raconte. Enfin, puis pourquoi lui? Pourquoi on lui en voudrait? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il travaille pas. Il n'est pas politicien, enfin, non, pourquoi? Donc ça tenait pas finalement. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your uncle Jim, your auntie Jim and your cousin Jim. Come home, Jimmy. On a trouvé pas mal de dossiers, des cartons remplis de dossiers quand on a été chez nos grands-parents. Donc suite au décès de papa, on a été avec ma sœur un peu prendre ses affaires. On a trouvé des dizaines de cartons remplis, des dossiers de procès essentiellement. Enfin, ils tenaient le compte depuis plus de 30 ans, je crois. Tout et n'importe quoi qu'ils gardaient dans ces dossiers. Donc ils sont, ouais, du coup on les a pris, ils sont ici, donc chez ma mère. On les a mis à la cave parce qu'on a dû ma pauvre sœur qui s'est plus ou moins tapé le boulot toute seule parce que moi j'étais occupée, mais à tout lire, à faire un peu le compte de ce qu'il y avait parce qu'on devait un peu savoir où on était au niveau des dettes. Et elles sont en bas dans la cave, on peut y aller. Faut imaginer du coup ce que ça représente. Alors là, faut enjamber. Hein. Attention.
C'est à droite. Et c'est...
Voilà, c'est un peu tout ça. Là, les cartons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, voilà, une dizaine de cartons remplis là, de plein de petites pochettes de couleurs différentes. Donc ça, je sais même pas qui c'est. Ah oui, un avocat, ça aussi, lettre d'avocat.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est PAM. Ça, c'est quoi? Ça, je sais pas. Ça, c'est une affaire, je sais même plus qui c'est ça. C'est un gros dossier. C'est tellement vieux que les élastiques se pètent en moins de deux. Alors, attends.
Cher monsieur, suite à nos entretiens téléphoniques, j'ai le regret de vous informer que mes biens immobiliers sont mis en vente aux enchères par maître S, notaire à Privas. Je vous implore d'intervenir afin d'éviter qu'ils ne soient bradés. Le produit de la vente risque de ne pas couvrir le montant de mes dettes. Je suis ruiné. Je ne possède plus rien. Je compte sur vous. Je vous prie de bien vouloir agréer ma considération distinguée. Hugo B.
Mais de toute façon, il y avait une cinquantaine de... Enfin, dans son dossier de surendettement qu'il avait fait un moment, parce que ça l'arrangeait bien pour là, de reconnaître qu'il avait des dettes pour faire son dossier de surendettement. Il y avait 50 personnes dans ses créanciers, quoi. On n'a plus vraiment besoin de dossier, donc ça prend de la place. Et puis, on sera bien soulagé aussi de pouvoir s'en débarrasser. Donc, pourquoi pas un grand feu de joie. Il est toujours dans... Enfin, il était, mais toujours dans la... dans l'opposition à ce qu'on dit. Et même si au début, on pouvait plus ou moins partir de son sens, ou disons qu'on n'était pas loin, qu'on pensait qu'on était dans son sens, il fallait toujours qu'il prenne un autre côté et qu'il, finalement qu'on se retrouve en opposition. Et le dialogue était impossible. Enfin, c'était un dialogue de sourds tout le temps. Et puis en plus, donc on le voyait tout le temps en même temps que mes grands-parents, en fait, des parents de mon père, parce que... déjà parce que petit à petit, il habitait plus vraiment dans la maison familiale de Vieux-Berquin, parce que sans argent, parce que sans emploi, parce que malade, c'était une grande maison qu'il n'arrivait plus à entretenir. Mais dialogue de sourds aussi, parce que mes grands-parents faisaient beaucoup l'autruche et qu'il était hors de question qu'on aille trop en opposition avec lui et qu'on montre qu'on n'était pas... qu'on respectait pas notre père comme on devrait respecter peut-être un père, en tout cas à leur idée. Mot tabou paranoïaque avec mes grands-parents, oui. Par contre, moi, je l'ai dit plusieurs fois face à mon père, mais parce que tu es paranoïaque. Ça le faisait sourire parce que, oui, lui, il savait qu'il était diagnostiqué paranoïaque par les médecins, mais pour lui, c'était les médecins qui étaient fous et qui avaient diagnostiqué paranoïaque parce que, comme lui, dans sa tête, dans son délire, finalement, les autres lui en veulent. Mais il est le seul à s'en rendre compte. Tout le monde lui disait non, t'es fou, t'es malade, t'es paranoïaque, c'est pas vrai. Mais du coup, ça renforçait son délire parce qu'il disait mais oui, mais c'est ce qu'ils veulent que vous croyez. Donc, c'est parce que je suis tellement dans une grande machination contre moi que forcément, vous pouvez pas vous en rendre compte, vous êtes pas au courant de tout. Et tous ces gens, la mafia qu'il appelait là, qui était contre lui, font en sorte que son entourage le croit fou. Mais du coup, ça le faisait sourire quand on disait ça parce qu'il fait oui, mais ah là là, si tu savais tout, mais il disait tout le temps ça. Tu comprendrais à quel point c'est fou. Il disait même lui-même à quel point c'est fou ce que je vis. Mais, ouais, voilà. Donc, c'était pas forcément tabou. Enfin, lui, il savait qu'on pensait qu'il était paranoïaque. Enfin, ce qu'il était de toute façon. Et lui, je pense qu'au fond de lui, il le savait aussi. The fellows used to say, be proud of your name.
Monsieur, je vous invite à visionner deux émissions. La première, celle de votre ami Yves Lecoq du 5 avril 2008. La deuxième, C'est dans l'air, du 2 décembre 2007 en direct sur France 5, sur la suite de la guerre d'Algérie. Le chanteur de la paix, ambassadeur de l'ONU, y dévoilait un complot sur la Drôme. L'un de ses complices, manipulé, menacer le sol national de guerre civile. J'accepterai de vous rencontrer pour vous traduire cette lamentable émission. Certains organisateurs seraient membres de groupes terroristes internationaux. Je m'étonne que cette émission évitât la censure élyséenne. C'est très inquiétant. Quelle peut être la prochaine étape? Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées. Hugo B.
Et puis, ça s'est vraiment détérioré petit à petit... Pour arriver finalement au moment où il était complètement en dépression, donc retourné en dépression, mais vraiment très forte. Il dormait toute la journée, donc il se levait la nuit, mais il traînait dans la maison, à la télé, l'ordinateur, sur dans ses dossiers, ses procès, il ressassait beaucoup de choses. Et il nous disait qu'il était vraiment mal, et là c'était assez horrible d'aller le voir, parce que c'était, même physiquement, enfin, il avait même des accès de... des boutons, enfin des croûtes sur la peau tellement ils y grattaient à sang, tellement il était stressé, angoissé. Il était toujours en train de dire « Mon Dieu, où est-ce qu'on en est arrivé? C'est horrible, on va pas s'en sortir. » Mais il nous incluait dans tout ça, en fait. Il était très inquiet pour notre avenir, pour son avenir, pour presque pour l'avenir de l'humanité. Mais c'était beaucoup aussi centré sur nous. Même si la paranoïa, c'était dur, parce qu'il y avait un dialogue... il y avait un rapport qui pouvait pas s'établir, vraiment. Il y a toujours cette incompréhension et ce décalage, mais au moins, ça le tenait entier, et ça le tenait... ça lui faisait supporter tout ce mal-être, finalement, toute cette souffrance qu'il avait en lui, et qui faisait qu'il avait développé cette maladie. Et là, avec cette phase dépressive, ça s'est tellement écroulé tout ça, enfin tout ce qu'il tenait à lâcher. C'est lui-même qui a demandé à se faire hospitaliser donc en EPSM parce qu'il avait envie de se taper la tête contre les murs, comme il disait.
Monsieur Patrice Lecomte, scénariste, je souhaite assister à un réalisateur sur deux types de tournages. L'un du genre comédie-comique contemporaine, l'autre de type reportage sur la nature. J'ai écrit un scénario. Deuxième week-end. Sylvie part chez Kiki. Bruno qui y loge la reçoit et lui laisse les rencontres et amour hilarante de cinq cadras d'origine sociale très différente et que tout oppose. Kiki propose une chambre pour la nuit à Anne-Charlotte. Idéalement le Vercors. Lors de la soirée, quiproquo. Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées. Hugo B.
Et puis finalement, cette phase-là, entre la sortie de PSM, où il était soumis sous tutelle, moi j'ai pas pu, enfin je sais pas que j'ai pas pu, mais je l'ai pas vu énormément. J'avais quelques contacts téléphoniques, il m'envoyait aussi pas mal de SMS. Toujours ces SMS un peu bizarres, ferme ton téléphone, t'es sur écoute, on tuit ou. C'était un on un peu indéfini, c'était on, c'était la mafia, c'était des gens qui avaient des mauvaises intentions, mais en fait, il y a eu après quelques personnes ciblées, parce qu'après, si, justement, dans ces on, dans ce on un peu indéfini, il y avait, parmi les personnes qu'il rencontrait, disons qu'il est ciblé pour faire partie de ce on. Voilà, bah disons qu'il y a beaucoup de photos de moi toute seule, là. Avec ma sœur... Ça, c'est moi, toute nue, dans ces énormes baskets, des baskets de mon père. C'est avec mon père et ma sœur en arrière-plan dans la Drôme, c'est assez rigolo. Bon, ça, je m'en souviens surtout avec les photos, hein, parce que sinon, je m'en souviens plus trop. Ah, ça, c'était la maison en Ardèche. On partait souvent, du coup, en vacances l'été, même les 2 mois, quoi. On partait en Ardèche, parce qu'ils avaient une maison, enfin 2 maisons même, en Ardèche. Ces albums, ils retracent beaucoup la vie de famille, donc à 4. Et après, quand on est parti de la maison, on a continué les albums photos, mais c'était nous trois. Enfin, il y avait notre père n'était plus dans les photos. Je vais la remettre dans l'armoire parce que ça prend de la place.
Petite, déjà, elle disait toujours, moi, je veux être psy. Mais c'est ce qu'elle disait, sans savoir vraiment ce que ça pouvait être, pour soigner mon papa. Petite, hein, elle avait 8 ans, 9 ans, elle en parlait déjà.
Là, aujourd'hui, je suis psychologue.
Je pense que pour elle, c'était une sorte de thérapie aussi.
5 ans de psycho, enfin 6, avec cette petite phase un peu où j'ai un peu tout lâché et où je me suis dit, mais en fait, je crois que je veux pas faire ça, ou qu'est-ce que je fais là, ou alors les choses étaient tellement mêlées entre mon histoire personnelle et mes études. Et c'était l'époque où, justement, l'époque où mon père était à l'EPSM, où c'était pas évident à vivre et où je devais aussi le mettre sous tutelle, enfin surtout toute cette période-là où ma sœur était d'ailleurs à l'étranger et où ma mère pouvait plus trop agir parce que de toute façon elle était plus référente pour lui, enfin elle était plus sa femme, elle était plus rien légalement pour lui. Donc je pense que ça a été un peu trop lourd pour moi tout ça. Et aussi avec ce moment où je me suis dit mais bah oui, cette question de pourquoi je suis là quoi, pourquoi j'ai fait ces études et est-ce que c'est pas pour des mauvaises raisons, est-ce que c'est pas pour sauver mon père ou je sais pas quoi ou
ça a duré quelques mois, je pense. Et puis finalement, un jour, elle m'a dit « Écoute maman, t'inquiète pas, je reprends, mais c'est pas du tout parce que je veux rien faire d'autre ou que j'ai pas trouvé. C'est que vraiment, je me lance à fond là-dedans et que c'est vraiment ce que je veux faire. »
Mon père finalement, donc après cette phase-là, après le PSM, la mise sous tutelle où je le voyais plus trop, il y a eu ce moment où finalement il s'est suicidé. Enfin, en fait, on l'a vu comme un apaisement. Ça a été très, très violent pour nous de l'apprendre et très douloureux, mais en même temps, il y avait Et ben maintenant, il est en paix, quoi. En fait, voilà, les sentiments que j'ai pour lui, ils sont durs à expliquer, parce qu'il y a, en fait, il y a l'amour d'une fille pour un père qui aurait pu être s'il n'y avait pas eu la maladie. Donc, c'est comme si c'était un amour qui n'était pas vraiment vécu, finalement, mais qui était espéré, enfin, ou qui était imaginé pour la personne qu'on sait qu'il aurait pu continuer à être. c'était assez émouvant la vente de la maison. Enfin, pour nous, c'était vraiment passé à une autre étape aussi. Ouais, c'est quelque chose et ça vient boucler pas mal de mois assez compliqués à mettre tout ça en place. Et... ouais, avec tous les souvenirs qui se mêlent, tout ça, c'était une bonne chose en tout cas. Ça faisait partie d'un petit processus qui était nécessaire pour aller de l'avant, quoi.
Avec Charlotte et Josiane, une production du QEJ, Centre universitaire d'enseignement en journalisme, mixage Pascal Doumange. Merci à Christophe Deleu et à la promotion radio 2009-2011.